Et c'est dans cette énergie que nous souhaitons la bienvenue à tous les êtres de lumière qui collaborent avec nous ce soir. Nous les sentons présents dans cette pièce, dans cette salle, aussi bien dans la matière que sous d'autres formes énergétiques. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons également la bienvenue au chariot blanc, à ce véhicule de conscience qui vient nous refléter cet état de supraconscience, de cette conscience supérieure, dans laquelle la majeure partie de notre être est déjà.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors, nous sommes ouverts à recevoir votre commentaire concernant conscience et inconscience.
Un grand travail. Nous allons d'abord ce soir procéder plutôt par un enseignement que par un commentaire. Nous parlerons de l'inconscience, après quoi nous parlerons de la conscience, quoique l'un et l'autre s'entrecroisent parfois. Nous dirons dans un premier temps qu'il y a plusieurs niveaux d'inconscience et plusieurs formes. Vous n'avez pas besoin de les retenir. Vous avez uniquement besoin d'en prendre conscience. Disons qu'une première forme d'inconscience pourrait être appelée le sommeil. Lorsque quelqu'un dort, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne goûte pas, il ne sent pas. Alors il y a des dimensions que vous ne touchez pas, que vous ne goûtez pas, que vous ne sentez pas et que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans la troisième dimension. Et dans cette troisième dimension, vous êtes dans le monde de la dualité, et dans le monde de la division. Vous êtes régi par le temps et par l'espace. Et alors, les choses que vous voyez sont celles qui vous sont amenées par les sens. Et vous croyez que cela est la conscience, mais nous vous dirons que ce n'est qu'un début de la conscience. Cette conscience, elle est partagée avec l'animal, par tous les animaux, parce qu'il y a des animaux qui ont une conscience plus grande que l'être humain, comme le dauphin par exemple. Alors nous vous dirons que cet état de sommeil vous empêche de voir de l'autre côté du mur. Car pour vous, ce qui crée le mur, c'est que pour voir, vous avez besoin du visible. Alors que la réalité la plus immense de tous les univers est dans l'invisible. Cependant, nous avons appelé ceci le sommeil parce que nous savons qu'un sommeil est toujours précédé d'une veille et suivi d'une veille. Donc, vous avez déjà été déséveillé et vous le devenez encore. Ne jugez pas ce sommeil, mais sachez que lorsque vous en sortirez, vous danserez de joie. Il y a une autre forme d'inconscience. Nous l'appellerons le bassin de l'inconscience collectif. Dans ce grand bassin circulent des multitudes d'énergies. Et ces énergies sont là, le résultat des formes pensées, le résultat des croyances, le résultat des archétypes. Donc flottent dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de penser que c'est l'espace tel que vous concevez l'espace, mais pensez à un espace comme celle de l'autre côté du mur. Alors, dans cet espace, flottent des archétypes. Par exemple, l'archétype de père ou de mère ou d'homme politique ou de toutes sortes de formes que vous revêtez. Lorsqu'un enfant naît, Il ne sait pas de lui-même qu'il est un père ou une mère ou un enfant. Tout simplement, il est ce qu'il est pour le moment présent. Il dort, puis il mange, puis il mouille sa couche. Et c'est tout ce qu'il fait. Et il est dans une forme de sommeil. Mais tout à coup, il se réveille. Il commence dans un premier temps à prendre conscience des personnes qui sont à l'extérieur de lui, à les toucher, à voir qu'il y a des différences entre ce qui est froid, ce qui est chaud. Puis, progressivement, il prend conscience de son propre corps. Il se rend compte que son corps est distinct du corps des autres. Et alors, il joue à découvrir ses orteils ou ses pieds ou ses mains et il s'amuse dans cette nouvelle conscience. Cette conscience, c'est toujours la conscience, nous dirons, qui est dans l'énergie de division, c'est-à-dire une énergie qui fait que je suis différent, que je suis « je » par rapport à celui qui est « tu » ou par rapport à celui qui est « toi ». Alors ça, nous vous dirons, c'est aussi une forme d'inconscience, parce que cela ne permet pas d'accéder à des plans ou à une conscience supérieure dont nous parlerons plus tard. Alors, tous ces archétypes que vous revêtez les uns après les autres, sous forme de rôle ou sous forme de valeur, sont des éléments qui sont là et que vous revêtez même sans savoir pourquoi vous les revêtez. Est-ce que lorsque vous avez 6 ans ou 7 ans, vous vous demandez pourquoi vous aurez à être un père ou une mère? Pourquoi vous êtes un enfant, celui de votre père et de votre mère? Vous ne vous posez pas ces questions. Vous revêtez ce rôle parce que c'est là, parce que vous êtes dans ce monde de dualité et que dans le monde de dualité, on se revêt des archétypes, on se revêt également de toutes les croyances. Ces croyances, dans ce grand bassin, vous les respirez. Elles sont là, autour de vous, et nous vous dirons, plus vous êtes poreux à l'énergie, plus elles pénètrent autour de vous et à l'intérieur de vous. Mais cependant, parallèlement, vous mûrissez, et alors vous commencez à développer votre individualité, à bien voir ce que vous voulez être, et peut-être qu'à ce moment-là, lorsque vous renforcissez cette individualité pour vous-même, que vous ne voulez plus à ce moment-là revêtir ces archétypes. Et vous devez faire le travail inverse de celui que vous aviez fait précédemment. Alors vous devez enlever les vêtements que vous aviez endossés. Et ça, c'est une démarche de conscience. Ceci prend un certain niveau de conscience pour sortir de l'inconscience, nous dirons, des empreintes qui sont laissées par toute forme de croyance extérieure. Ensuite, il y a une autre forme d'inconscience. Nous l'appellerons celle-là, au lieu du sommeil ou au lieu de l'inconscient collectif, nous l'appellerons l'inconscience de cristallisation. Cette inconscience de cristallisation, vous pouvez la visualiser ou la percevoir à travers toutes ces vies que vous avez vécues, toutes ces expériences que vous avez vécues et qui sont cristallisées à l'intérieur de vos cellules, qui sont cristallisées même dans votre système osseux. Et alors, plus vous éveillez la conscience, plus à un moment donné, des vieilles histoires ou, nous dirons, des vies antérieures ou des images antérieures de guerre ou de souffrance ou de douleur ou de torture ou de bonheur ou toutes les formes d'expériences possibles dans un corps physique peuvent arriver à remonter à votre mémoire. Vous pouvez, à un moment donné, vous voir vous-même comme étant un homme attaché à un poteau qui attend d'être délivré par ses compères alors que ses ennemis l'ont mis là prisonnier. Si ces images montent à l'intérieur de vous, ne dites pas c'est mon imagination. Dites ce sont de vieilles formes qui veulent sortir de mon énergie. Et alors, si vous les accueillez, ces formes, sans leur donner une importance capitale, mais en les voyant plutôt comme des parties de vous voulant se délivrer, en les accueillant, elles vont se délivrer d'elles-mêmes. Et alors, votre conscience va s'élargir. Le travail de conscience réside dans cet effort que vous avez à faire pour être capable de délivrer votre être encodé et de l'amener dans une dimension qui soit très différente. Cette dimension, c'est celle de la conscience pure. Nous définirions la conscience pure comme étant la certitude profonde qui vous habite que tout est un, que rien n'est divisé, que les polarités ou la division sont des mensonges. Cependant, ce monde de mensonges ou ce monde d'illusions, vous y vivez quotidiennement et vous en recevez quotidiennement la vibration. Cependant, plus vous allez éveiller cette conscience du un, cette conscience que tout est unifié et qu'il n'y a qu'un seul esprit qui réside en tout ce qui est, à ce moment-là, vous allez commencer à voir vos vieilles structures s'écrouler d'elles-mêmes. Et vous allez voir que le mental, qui a été le maître des structures, va pouvoir arriver à se dissoudre et vous servir à un autre niveau. L'ego lui-même va se dissoudre. Ce sera la mort de l'ego. Cette mort n'est pas nécessairement facile, mais ce qu'elle éveille est tellement grand que jamais vous ne regretterez de mourir à votre ego lorsque vous toucherez ces nouvelles dimensions de conscience. La conscience qui est en train de s'installer sur le plan terrestre actuellement, c'est cette conscience de l'infinitude, que tout est un, que ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous palpez n'est pas véritablement la réalité, mais que la réalité existe au-delà de cela et que cette réalité fait qu'il n'y a pas de densité, qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas de matière et qu'il n'y a pas non plus de temps. Mais pour être capable d'avoir cette perception, qu'elle devienne claire et qu'elle devienne un état, il faut que vous soyez dans la quatrième dimension. Pour passer à la quatrième dimension, il y a un chemin. Et le chemin, nous dirons, qui serait le plus aisé, est celui de l'intuition. Alors, quotidiennement, vous placez en état de réceptivité de ce qui vient par le canal intuitif, c'est-à-dire ne pas laisser le mental ou ne pas laisser le cerveau de gauche prendre tout l'espace, vous commander des choses, vous dire « te souviens-tu », vous ramener de vieilles émotions, laisser monter en vous de vieilles colères. Si tout ceci se présente, c'est uniquement pour être accueilli et être amené dans cette énergie du « un ». Alors, le passage, nous vous disions, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est une énergie féminine. Ceci n'a rien à voir avec la forme du corps physique. Cette énergie féminine, elle habite tous les êtres, dans la mesure où il s'y ouvre, bien sûr. C'est l'énergie de l'esprit. Cette énergie féminine, si vous l'accueillez et la laissez pénétrer à l'intérieur de vous, elle envahira complètement vos deux cerveaux, de sorte que vos deux cerveaux ne feront plus qu'un. Et lorsqu'ils ne feront plus qu'un, la pensée de la dualité ne vous habitera plus. Et alors, vous allez vous dégager de tout ce qui vous attache, de tout ce qui vous lie, de tout ce qui vous enchaîne. Comment pourrez-vous, par exemple, vouloir posséder quelque chose alors que vous saurez que vous êtes ce quelque chose? Comment pourrez-vous vouloir posséder quelqu'un alors que vous saurez que vous êtes ce quelqu'un? Si vous développez cette conscience, de grands murs vont s'effondrer, et ils vont s'effondrer rapidement, parce qu'à chaque fois que vous franchissez un cran dans la conscience, vous multipliez par 100 fois le chiffre 1000 l'accélération de votre énergie. Et vous le faites pour vous-même et vous le faites pour la collectivité. C'est pourquoi, dans les temps présents, vous devez remarquer que les événements se précipitent, que les choses vont rapidement, que vous avez l'impression que le temps vous bouscule ou qu'il n'existe plus, ou que vous êtes, nous dirons, en querelle avec. Et cela, c'est très bien. Ce sont des signes très efficaces et très remarquables que vous êtes en train de traverser le passage. Le passage vers la supraconscience. Qu'est-ce que la supraconscience? La supraconscience, c'est la certitude du « je suis ». Du « je suis » qui est un. Si vous êtes 100 personnes dans cette pièce, il n'y a pas 100 « je suis ». Il n'y a qu'un seul « je suis ». Et nous vous dirons ce « je suis ». C'est la totalité de toute énergie. C'est la totalité de toute expérience. C'est la totalité non seulement de tout ce qui a été et de tout ce qui est, mais de tout ce qui sera. C'est-à-dire que tout est déjà créé, même si vous ne voyez pas que c'est créé. Alors direz-vous, comment vais-je développer mon pouvoir créateur? En vous donnant accès à cette conscience de la non-dualité, de la non-division, en ne vous cramponnant pas à ce qui est dans le passé, en ne vous cramponnant pas à vos expériences telles que vous les connaissez maintenant, comme étant les seules expériences qui vous permettent d'évoluer, mais en vous autorisant à quitter les expériences anciennes pour goûter des expériences nouvelles. Alors le chemin, ce sera la voie de l'intuition, la voie féminine à l'intérieur de vous. Et la voix féminine, c'est la voix de l'accueil. Accueillir tout ce qui est, en sachant que tout est déjà là et que tout est parfait. Et nous vous dirons, lorsque vous aurez atteint certains degrés de supraconscience, lorsque vous serez passé de la 4e à la 5e, 6e et 7e dimension, alors vous comprendrez que dans tous les univers, existe des multitudes de choses que vous ne pouvez même pas saisir ou comprendre aujourd'hui parce qu'elles dépasseraient votre pensée et votre entendement. Alors, nous vous dirons, éveillez-vous à la conscience. Demandez de sortir des archétypes, de sortir des structures, de sortir des formes, de sortir des rôles pour être capable de vous retrouver dans la totalité de ce que vous êtes vous-même, dans votre individualité, pour ensuite être capable de fondre ce « je » dans le « soi ». Nous ne dirons même pas dans le « nous », parce que le « nous » peut supposer 2, 3 ou 4 personnes ensemble, mais le « soi » suppose la totalité de tout ce qui est. Alors, entrez dans cette vibration, laissez-vous glisser dedans, ne forcez rien, ne vous imposez rien, mais soyez ouverts et nous vous dirons, sachez que vous pouvez être conscient 24 heures sur 24. C'est votre pensée qui crée la conscience. Maintenant, nous écouterons vos questions.
Par rapport à la fin de ce que vous venez de mentionner, est-ce possible à ce moment-ci de parler de l'obsession?
Certainement, il y a toutes sortes de formes d'obsessions. Les obsessions, nous vous dirons, sont des chaînes. Elles vous rendent prisonnier, même si votre obsession, c'est de vouloir évoluer. Nous vous dirons, celui qui veut et qui veut et qui veut s'empêche d'avancer parce qu'il crée à l'intérieur de lui une forme de résistance et une forme de compression qui empêche l'énergie de circuler. Mais celui qui s'abandonne, celui qui se livre à l'événement de chaque moment, celui qui, sans s'attacher, devient observateur de lui-même, observateur de ce qui l'entoure, non pas observateur dans le sens de quelqu'un qui est indifférent, mais observateur dans le sens de la conscience. Vous observez lorsque vous posez un geste, vous observez dans votre inspire et votre expire. Si tout à coup ce qui est en vous est la peine, vous observez la peine et vous la laissez passer. Mais si vous avez une obsession de vous délivrer de la peine, ou l'obsession que quelqu'un vous aime parce que vous avez un vide, ou l'obsession de vouloir évoluer spirituellement rapidement, là, vous vous créez des contraintes. Alors, l'obsession, c'est un obstacle, c'est un mur. Vous avez la capacité de le traverser dans l'amour, le lâcher-prise et l'abandon et l'accueil.
Une question ici qui dit, je me demande si l'inconscient dont parle Freud dans la psychanalyse est une bonne approche pour ramener au conscient ce qui est inconscient.
Nous vous dirons qu'il y a trois grands maîtres en psychologie qui ont parlé beaucoup de l'inconscient. Il y a Freud, il y a Carl Jung et il y a aussi Adler. Ces trois maîtres, vous pouvez les appeler les maîtres de la psychologie, ont eu des définitions différentes selon leur degré d'évolution. Freud, lui, était obsédé. Obsédé par la sexualité. Alors, il ramenait tout de l'inconscient à la sexualité. Peu importe quels étaient les comportements des gens ou quelles étaient les situations dans lesquelles ils se retrouvaient ou leur recherche intérieure, Freud ramenait tout à la sexualité. Ceci était très bien parce qu'au temps où il y a vécu, il y avait, nous dirons, un grand polissage à ce niveau. Et nous vous dirons que le polissage était le suivant. La pensée de Freud ou l'approche de Freud venait faire le pendant à l'opposition de l'approche des églises. Nous n'avons pas de jugement ni sur Freud ni sur les églises. Mais nous vous dirons que les églises ont créé dans la pensée des gens une forme de peur, de restriction et d'obsession au niveau de la sexualité. Alors les gens ont refoulé cet état au lieu de l'exprimer comme étant une réalité tout à fait naturelle. Freud, lui, en opposition, a tellement tout relié qu'il a créé d'autres formes d'obsession. Et nous vous dirons que les gens sont allés et vont aujourd'hui dans certains pays. Nous vous dirons la sexualité est le meilleur vendeur. C'est la source et la base de l'économie de certains pays. Et nous vous dirons que ceux qui sont l'autorité des pays savent bien ceci et c'est bien exploité. Alors vous avez les deux obsessions qui sont là. Et qui sont, nous vous dirons, ce monde de la dualité, l'exemple du monde de la dualité. Et nous vous dirons, la sexualité est une réalité qui est parfaite et progressivement, lorsque la personne établit l'équilibre, elle retrouve l'unité de cette énergie à l'intérieur d'elle et elle peut l'utiliser à de multiples formes et pas à une seule forme, comme vous le connaissez. Nous dirons que Jung, lui, était plus évolué que Freud. Il est venu après lui, il s'est installé où, nous dirons, il a créé une base à partir des découvertes de Freud, mais il est allé plus loin et il a commencé à parler de l'âme. Et parce qu'il a commencé à parler de l'âme, il a permis à, nous dirons, ce bassin d'inconscient de créer des formes pensées ou d'absorber des formes pensées nouvelles qui s'y sont cristallisées aussi ou qui y circulent dans une certaine fluidité encore, puisqu'il est très, nous dirons, à point actuellement et que beaucoup de maîtres en psychologie y font référence. Alors nous vous dirons que lui et bien d'autres, et nous pourrons en décrire quelques-uns, mais cependant nous ne voulons pas tout centrer autour de la psychologie ce soir. Alors lorsque vous posez cette question et que vous dites « est-ce que c'est le chemin pour aller vers la conscience ?», nous vous dirons « c'est une page dans un dictionnaire ». Ne vous limitez pas. La psychologie ne fait que commencer et déjà elle passe dans une autre dimension. Bientôt, tout ce qui est connu en psychologie sera désuet. Cependant, nous vous dirons, c'est aussi progressif que l'enfant qui grandit et qui passe de 3 ans à 7 ans. Pas dans un jour.
Est-il possible d'entrer en contact avec sa puissance? Sans d'abord ressentir son impuissance?
Ça, c'est une question très remarquable. Nous vous dirons que la puissance, c'est une opposition. Et l'impuissance aussi, c'est une opposition. C'est-à-dire, ce sont deux opposés. Ils font partie du monde de la dualité. Mais si vous êtes capable de prendre l'impuissance, de l'amener vers vous, d'en connaître la texture, de voir où vous vous sentez impuissant, à quel moment, dans quelles circonstances, en face de qui, et qu'ensuite vous allez chercher la puissance et que vous unifiez ces deux forces, elles vont pouvoir, nous dirons, se dissoudre d'une certaine façon pour que vous puissiez les modeler et créer ce que vous voulez créer avec cette forme énergétique. Alors, vous avez raison de dire qu'il est important de connaître les oppositions pour être capable de les unifier et ensuite de les utiliser dans votre canal intuitif.
Donc, rien n'est rejetable, tout est instrument?
Tout est parfait. Tout est parfait. Nous le répétons, tout est parfait. Ceci ne veut pas dire que vous n'ayez pas à utiliser votre discernement. Lorsqu'un enfant naît et que sa mère prend soin de lui et qu'elle lui met des couches et qu'elle lui met de la poudre et qu'elle lui donne le biberon, cela est parfait pour son état. Mais lorsqu'il a 15 ans, si sa mère faisait la même chose, vous pourriez dire que quelque part, il y a un degré d'évolution qui ne s'est pas manifesté. Il en est de même pour votre propre évolution. Tout est parfait au moment où vous le vivez, mais chaque geste que vous posez ou chaque expérience que vous vivez devrait vous amener dans un degré de conscience supérieur et plus grand et plus évolué, et dans une autre dimension. Mais au moment où les choses se passent, elles sont parfaites en leur essence à ce moment-là. Et si vous êtes capable de voir tous les événements, même ceux que vous trouvez les plus dramatiques, comme étant la matrice d'une énergie d'évolution, alors vous ne verrez plus le monde de la même façon. Et vous-même surtout.
La prochaine question, c'est qu'entendez-vous par choc du futur?
Nous dirons que le choc du futur est dans le présent. Il est grand ce choc parce que, comme nous l'avons dit précédemment, maintenant que la conscience devient plus claire pour les êtres de la race humaine, c'est que l'être humain ne peut plus contenir dans son gabarit ou dans sa forme physique actuelle, dans sa forme émotionnelle actuelle, dans sa forme mentale actuelle, toute la résonance de cette conscience. Alors, il doit se transformer, il doit accepter cette mutation. C'est vraiment ce choc du futur, voyez-le comme une mutation, et une mutation plus importante que tout ce qui a été connu jusqu'à présent. C'est pourquoi nous parlons d'un choc. Et nous vous dirons que dans la vibration même du corps physique, vous devez commencer à sentir ce choc. Mais vous pouvez aussi en voir des émanations à l'extérieur, dans, nous dirons, le progrès de la science, par exemple. Si vous reculez seulement 200 ans en arrière, vous allez voir le choc qu'il y a entre il y a 200 ans et aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans, qui ne connaissait ni l'électricité, ni le téléphone, ni les avions, ni les voitures, ni l'informatique, ni tous les grands systèmes de santé, ni tous les grands systèmes gouvernementaux, et qui tout à coup reviennent. Imaginez que quelqu'un a été 200 ans dans le coma et qu'il s'éveille. Est-ce qu'il est au même endroit? Pas du tout. Et là, il peut vivre un choc terrible. Et vous êtes dans ce choc à cause de la rapidité des événements actuellement.
Il y a eu un égrégore très important que plusieurs canalisent actuellement, et c'est l'énergie de la colère. Et cette énergie-là se manifeste par rapport à la friction du conscient et de l'inconscient. Est-ce que vous pouvez en parler davantage, s'il vous plaît?
Certainement. Nous vous dirons que, à un moment donné, nous donnerons une forme d'exemple pour vous rendre la compréhension plus facile. Imaginez que vous avez des matériaux très précieux et que vous vous êtes autorisé de vous faire construire non seulement un château, mais tout un village avec des villas et ainsi de suite, parce que vous venez d'hériter de nous dirons, d'une richesse immense. Mais ce soir-là, vous vous endormez et vous ne vous réveillez que 100 ans plus tard. Et quand vous vous éveillez, les matériaux sont là et ils dorment. Est-ce que vous ne ferez pas une colère d'avoir dormi aussi longtemps et d'avoir laissé ainsi périr certains matériaux, les avoir laissés se détériorer par la pluie ou par le vent ou, nous dirons, par le temps? Alors, nous vous dirons, à un moment donné actuellement, c'est comme si vous êtes dans la troisième dimension et que tout à coup, par un éclat de conscience rapide, vous êtes projeté dans la cinquième ou la sixième. Et alors, les choses vous deviennent très claires. Vous comprenez la division, vous comprenez la dualité, vous comprenez tout le monde de l'illusion et tout à coup, vous vous retrouvez dans la troisième dimension. Et là, vous dites, ou bien ce que j'ai vécu était de la foutaise, ou bien ce que je vis présentement est de la foutaise. Et ça, c'est le heurt entre ce conscient et cet inconscient, entre la partie de vous qui est éveillée et la partie de vous qui dort. Et cela crée un choc. Et dans ce choc, il y a une énergie de colère, comme la colère d'avoir oublié cette toute-puissance de ce que vous êtes, d'avoir oublié le Dieu que vous êtes, d'avoir cru que vous étiez divisé. Et ceci engendre une grande colère au-dedans de vous. Laissez cette colère se manifester. Elle est parfaite, elle est libératrice, elle est une énergie. Si elle est accueillie, elle va contribuer à faire que l'évolution de la conscience se fasse plus rapidement.
Dans une recherche de conscience, est-ce que l'initiation que l'on a reçue, ma conjointe et moi, de Sen Thakkar Singh, est bien pour nous? Et doit-on continuer à méditer comme on nous l'a enseigné, à répéter les mantras constamment et à suivre une alimentation végétarienne?
Nous sommes très heureux de cette question. D'abord, nous vous dirons, si vous avez vécu cette expérience, sachez qu'elle est la plus parfaite. Cependant, nous vous disons à vous et à toutes les personnes qui entendront ce message, ne vous attachez à rien. Tout est instrument. Lorsque quelqu'un va dans un hôpital parce qu'il a une fracture du fémur et qu'il sort de l'hôpital avec des béquilles et que le médecin lui dit « Tu en as pour 6 ou 8 semaines à marcher de cette façon. » Au bout de 8 semaines, lorsque le plâtre est enlevé et que l'homme a fait des exercices pour récupérer son énergie, croyez-vous qu'il retournera chez lui en baisant ses béquilles et en disant « Maintenant, je ne veux plus marcher autrement. » Ces béquilles étaient un instrument parfait. Nous insistons, un instrument parfait. Comme l'alimentation peut être un instrument parfait si vous êtes végétarien. Nous vous dirons, la méditation est un instrument parfait, mais ce ne sont que des instruments. Si ces instruments vous créent une obsession ou une forme de malaise ou une forme de culpabilité en vous disant « Aujourd'hui, je n'ai pas médité, j'ai mal mangé, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela » et que ceci crée une contrainte dans votre énergie, laissez de côté ces instruments. Si par ailleurs, en utilisant ces instruments, vous avez l'impression de vous donner des balises pour être capable de vous ouvrir à l'énergie et d'être davantage conscient et centré sur vous-même, utilisez-les, mais à partir du maître et du gourou que vous devenez de vous-même, vous-même.
Éclairez-moi, s'il vous plaît, quand un couple a des enfants, le divorce de ce couple est-il impossible, interdit, inacceptable sur les plans invisibles, au niveau des âmes, peut-être? Merci de votre lumière.
Impossible, interdit, inacceptable n'existe pas dans la quatrième dimension. Les interdits appartiennent au plan de la dualité. L'inacceptable appartient au plan de la dualité. Il appartient au plan mental et il appartient à l'ego. Si vous avez la conscience que tous les êtres qui sont sur le plan terrestre sont des âmes suffisamment évoluées pour avoir pris la décision de venir s'actualiser dans un monde de dualité, comment pouvez-vous penser que des enfants ne sont pas capables de créer eux-mêmes leur propre réalité d'un père et d'une mère séparés si cela est nécessaire? Nous vous dirons, si un enfant demeure avec ses parents et qu'il y a entre eux une tension et une querelle qui est là sans cesse dans l'énergie et que les enfants sentent toujours cette tension, croyez-vous que cet état sera meilleur que si le père va vers ce qu'il a besoin de vivre et la mère vers ce qu'elle a besoin de vivre et que l'enfant peut aller tantôt chez l'un et tantôt chez l'autre pour être capable de les voir vivre leur expérience pour apprendre lui-même à vivre son expérience? Alors, ce que nous sentons dans la question posée ce soir, c'est une énergie de culpabilité. Nous ne disons pas que ceci veut dire que vous n'avez aucune responsabilité de ce que vous avez engendré. Bien au contraire, Vous avez la responsabilité de ce que vous engendrez, mais cependant, cette responsabilité peut être prise de diverses manières. Ne limitez pas votre capacité, nous dirons, d'être responsable de votre création.
La prochaine question est, est-ce que Gisèle est heureuse? Et par rapport au thème de ce soir, est-ce que c'est possible de ramener cette question par rapport à l'influence du passé, par rapport à l'influence également de l'inquiétude sur la conscience?
Bien sûr. D'abord à la personne qui dit « Est-ce que Gisèle est heureuse? » Combien y a-t-il de Gisèle dans le Québec? Alors, il est très difficile de dire si Gisèle est heureuse ou malheureuse. Nous vous dirons que Gisèle, peu importe qu'elle s'appelle Gisèle, ou Caroline, ou Michel, ou André, ou Nicole, ou Madeleine, ça, ce n'est pas important. Ça, c'est uniquement une vibration. Mais nous vous dirons que cette Gisèle, quelque part, elle est une cellule du corps christique. À la personne qui pose cette question, nous dirons, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes confortable à l'intérieur de vous? Est-ce que vous savez que vous êtes Gisèle? Et alors, cette Gisèle dont vous vous inquiétez à l'extérieur de vous, êtes-vous capable de la voir comme une partie de vous et aller voir si cette partie de vous est heureuse? Et si vous ne la sentez pas heureuse, que pourriez-vous faire pour la rendre heureuse? Comment pourriez-vous l'accueillir? Comment pourriez-vous l'aimer de façon inconditionnelle? Comment pourriez-vous même la voir malheureuse en vous disant que ce n'est pas une catastrophe, que ce que vous appelez le bonheur ou le malheur est souvent, nous dirons, perçu en fonction du manque. Elle n'a pas assez d'argent, donc elle est malheureuse. Elle n'a pas d'amoureux, donc elle est malheureuse. Elle n'a pas une job, c'est ainsi que vous dites?
Un emploi.
Un emploi. Elle n'a pas d'emploi, donc elle est malheureuse. Ça, ce sont des vieux critères dont vous devez vous défaire. Car ce que vous apercevez dans le malheur extérieur, c'est une illusion. Quelle était la question que vous posiez, André?
Par rapport à l'influence...
De l'inquiétude.
De l'inquiétude et aussi l'influence de ramener le passé dans le présent. Quelle influence ceci a-t-il sur le conscient et ou l'inconscient?
D'abord, nous parlerons de l'inquiétude. Si vous émettez une vibration qui s'appelle inquiétude, elle prend une forme. Si vous émettez deux fois cette vibration, le 1 est multiplié par 2, qui fait 3. Si vous émettez une troisième fois cette vibration, le 3 est multiplié par 3, qui fait 9. Et ainsi de suite. Et alors, vous multipliez la vibration de l'inquiétude dans l'univers. C'est comme si vous semiez ceci dans l'univers. Mais si vous dites « être inquiet » ou « ne pas être inquiet », ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est d'être dans le présent. Si dans le présent, je suis dans l'inquiétude, j'accueille l'inquiétude. Je lui dis, tu veux venir dans ma maison? Je t'accueille. Je sais qu'en t'accueillant, je vais te couvrir d'amour et qu'alors, tu n'auras plus besoin de vivre cette vibration. Et alors, la mutation de l'inquiétude se fera. Elle deviendra une autre forme d'énergie. Ceci ne veut pas dire que ce processus s'opérera dans 3 minutes ou 7 minutes ou une demi-journée. Peut-être cette inquiétude voudra-t-elle vous habiter pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois. Ce n'est pas important. Ne la chassez pas. Accueillez-la. Dites-lui, je vis à côté de toi, mais je sais que moi, je ne suis pas l'inquiétude. Je sais que moi, je ne suis pas l'émotion. Je sais que moi, je ne suis pas le malheur, comme vous dites, ou le bonheur. Je suis autre chose, je suis le divin. Et le divin est la totalité de tout ce qui est. Mais cette inquiétude, j'ai le pouvoir de la changer de vibration. Et si vous l'accueillez, elle va changer. L'inquiétude est très souvent liée au passé. Et le passé, il contient des formes cristallisées. C'est ce que nous appelions tout à l'heure l'inconscient cristallisé ou la cristallisation de formes. Et nous vous dirons, si vous vous référez sans cesse au passé et que vous dites, dans le passé, j'ai vécu telle expérience, donc si demain je vais à tel endroit, je risque de vivre cette expérience, donc je n'y vais pas. Voyez comment le passé devient une prison et une chaîne. Alors vous pouvez dire au passé, j'ai vécu ceci, mais maintenant, dans mon pouvoir créateur, je sais que je peux poser le même geste et avoir une autre récolte. Et alors, à ce moment-là, vous êtes capable d'éveiller votre conscience à d'autres réalités, au lieu de vous enfermer dans vos prisons du passé.
Merci pour ce potentiel. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la subdivision et comment l'utiliser?
D'abord, avez-vous entendu la cassette tourner au moment de subdivision? Vous écouterez bien comment ce mot ne sera même pas enregistré, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, nous vous dirons, prenez cet enregistrement qu'on vous a vendu au marché à la puce et balayez ceci de votre énergie. Si vous voulez en savoir plus long sur ce que vous appelez la subdivision, placez-vous en état de silence intérieur, ouvrez le canal de votre intuition et demandez à votre âme si vous avez dans ceci un instrument libérateur ou une prison. Et nous sentons la clé de la prison lorsque vous dites « je n'utilise pas assez cela ». Dans ce langage, il y a une condamnation. Si vous vous condamnez, vous devenez un prisonnier. Nous vous dirons « la personne qui vous a dit ceci parlait de sa propre subdivision ». Alors, libérez-vous.
Lorsque je vais mourir, ma conscience va s'éveiller à certains aspects de mes vies et je vais probablement ressentir certaines culpabilités à partir desquelles je vais grandir en vue de ma prochaine point de suspension.
Alors, vous arrêtez là?
Oui.
Une autre cassette qui vient de tourner. D'abord, comprenez-vous bien que le langage que vous venez de tenir, et merci pour l'avoir tenu, c'est le langage de la projection. C'est votre propre peur actuelle et le propre jugement que vous portez sur vous, que vous voyez de l'autre côté du mur de la mort et que vous dites « là, je vais être jugé ». Ce n'est pas là que vous allez être jugé. C'est ici, dans le présent, que vous vous jugez vous-même. Nous vous dirons, la mort, ce n'est rien d'autre chose qu'un changement de vêtements. Lorsque vous changez de vêtements, est-ce que vous vous jugez? Pas du tout. Et nous vous dirons ce que vous appelez le passage de la mort. C'est une étape que vous franchissez et qui vous amène dans un autre niveau de conscience, et qui vous amène aussi dans un niveau de condescendance et, nous dirons, d'une grande compassion pour vous-même. Car celui qui est passé à travers le mur de la mort, que ce soit la mort du corps physique, que ce soit la mort du corps émotionnel, que ce soit la mort de l'ego, celui-là reçoit des vibrations, nous dirons, du capital et intérêt, pour être capable de se percevoir avec plus d'amour et plus de compassion. Alors, enlevez le jugement. Maintenant, nous écoutons la question. Est-ce qu'elle tient encore?
Je vais vous laisser commenter à ce par rapport à cette question. Alors, de quelle façon une plante ou un animal peut-il évoluer sans avoir vécu la culpabilité? Comment arrive-t-il à grandir d'une vie à l'autre sans être pleinement conscient du bien et du mal?
Alors, l'animal et la plante ne sont pas dans le plan de la dualité. Mais ils ne sont pas non plus dans un même plan de conscience que vous. Ils ont des consciences très endormies, si vous voulez, ou très limitées. C'est sûr que l'animal est plus conscient que la plante. Nous vous dirons qu'ils sont codés. La plante est codée. Si vous prenez une petite graine qui vient du cœur d'une rose et que vous la plantez, vous n'aurez pas une tulipe. Parce que cette graine est codée et qu'elle s'appelle rose. Et alors, elle va toujours répéter le même code. Et les autres roses qui suivront, qui viendront de ces graines, seront des roses aussi. Et resteront toujours dans la même forme et la même vibration parce qu'elles sont codées. Et nous vous dirons, elles évoluent dans le sens que, imaginez qu'un animal mange une fleur. Que devient cette fleur? Elle devient une autre forme énergétique et il se peut qu'elle s'appelle vache ou qu'elle s'appelle un animal. C'est tout simplement qu'elle devient une autre forme cellulaire. À ce moment-là, elle a une conscience différente. Elle a la conscience, par exemple, du chaud ou du froid ou du malaise ou, nous dirons, de la faim et de la soif, qui est très différente de la faim de la fleur, par exemple. Alors, nous vous dirons, elle évolue. Lorsque l'animal est mangé par l'humain, que devient-il? Il devient une cellule humaine, une cellule du corps humain. Alors, il reçoit un choc, une vibration. Alors, vous allez dire, nous allons faire évoluer la race animale et nous allons la manger. Nous vous dirons qu'elle peut évoluer autrement, beaucoup plus rapidement que si vous ne la mangez pas. Mais si vous la mangez, il n'y a pas là de drame. Vous lui permettez aussi de changer de vibration. Alors, toute la création est en évolution et son évolution est proportionnelle à son rythme. Et si la pierre a un rythme de 2 Hz et que l'animal a un rythme de 25 et que l'être humain a un rythme de 2000 et que l'ange a un rythme de 100 000, nous vous dirons que ce sont toujours des vibrations, mais dans des plans d'accélération différents. Et rendu à un certain niveau, la conscience s'installe. Alors ne vous inquiétez pas pour l'évolution de la création, elle évolue d'elle-même. La fleur ne se pose pas ces questions-là.
J'ai un peu d'eau pour, venant de la source ici.
Quelle source?
Ah ouais, terre à terre.
La source chlorée.
J'étais pour dire ça. Terre à terre, elle vient du Saint-Laurent. Alors, la prochaine question, je voudrais toujours être dans la conscience et je m'en veux de me laisser glisser dans l'inconscience. Il me semble parfois que je laisse la vie se dérouler devant moi au lieu de laisser passer, au lieu de la laisser passer à travers moi. Comment m'aimer dans mon inconscience?
Vous avez la réponse dans votre question. Vous aimez dans votre inconscience. Et nous vous dirons si vous vous aimez 5 minutes par jour dans votre inconscience, que vous vous asseyez et que vous vous dites, tiens, je vais prendre du temps pour aimer mon inconscience. Votre inconscience ne demeurera pas là. Elle va devenir conscience. Et alors, ces 5 minutes deviendra 10 minutes. Puis ensuite, vous allez commencer à marcher sur la rue et dire, tiens, voici qu'hier, je n'étais pas conscient lorsque je marchais. Et maintenant, je le suis davantage. Je n'étais pas conscient tout simplement du geste que je posais lorsque je pelais la pomme de terre ou lorsque je parlais à mon voisin. Car la conscience n'est pas d'être dans un état mystique toujours. La conscience, c'est d'être là où vous êtes et de savoir que vous êtes autant la totalité lorsque vous pelez une pomme de terre que lorsque vous faites une méditation. Alors, nous vous dirons, de toute façon, vous êtes la conscience absolue, répétez-le quotidiennement et vous allez voir, les écorces d'inconscience vont finir par tomber. Et de plus, savez-vous qui est-ce qui s'inquiète à l'intérieur de vous? C'est votre ego. C'est un joli piège, n'est-ce pas? Lui, il se déguise de toutes les façons.
Pourriez-vous nous parler de la troisième révélation de Fatima?
Pourquoi voulez-vous savoir ceci? Parce que vous avez peur? Parce que vous craignez? Alors nous vous dirons, allez vendre ceci au marché à la puce. Vous n'avez pas besoin de la peur. Si vous avez peur, vous engendrez la peur. Si vous avez peur des catastrophes, vous engendrez les catastrophes. Si vous avez peur de manquer de nourriture, vous engendrez la famine. Si vous avez peur d'être inondé, vous engendrez l'inondation. Vous créez ce qui passe dans votre pensée. Alors commencez donc à créer la Jérusalem céleste où vous êtes délivré de toute peur. Dites-vous que Marie, lorsqu'elle est venue à Fatima, elle est venue dans un temps bien précis. Et à ce moment-là, il y avait tel niveau de conscience sur le plan terrestre. Depuis, la conscience s'est élevée et il est fort possible que ce qu'elle a dit, qui vous apparaîtrait une catastrophe de 100%, peut se révéler uniquement de 3 ou de 7% et que vous n'y soyez point touché. Alors nous vous dirons, si vous voulez savoir ce que Marie a dit à Fatima, rendez-vous ouvert à cette énergie féminine par excellence et elle va vous dire que ce qui va se passer est la plus grande catastrophe qui pourrait se passer, c'est de rester dans la peur, c'est de rester dans, nous dirons, dans cette espèce de pensée de cataclysme ou de pensée que tout va être détruit. Nous vous dirons, s'il y a des cataclysmes et qu'il y a des choses qui sont détruites, ce sera le plus parfait qui pourrait arriver. Si vous mourrez à l'intérieur de ces cataclysmes, vous allez bénir le cataclysme quand vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Alors cessez d'avoir peur et bénissez, bénissez, ne cessez pas d'être gratitude et bénédiction pour tout ce qui est. C'est fatigant, n'est-ce pas? Vous devez abandonner vos vieilles croyances de la peur. C'est gênant pour la peur et c'est gênant pour l'ego.
Quel est le rôle des rêves par rapport à conscient et inconscience?
Nous vous dirons, les rêves, ce sont des instruments très précieux. Ce qu'ils peuvent faire, les rêves, si vous leur demandez et vous devenez complice de cette énergie à l'intérieur de vous, c'est qu'ils peuvent vous permettre d'aller dans la partie que nous avons appelée la conscience cristallisée, dans lesquels il y a des codes qui sont enregistrés ou tatoués à l'intérieur de votre système, de votre corps éthérique et de votre système osseux et de vos cellules, et qui sont de vieilles mémoires dont vous avez à vous défaire. Alors, le rêve de connivence, il peut aller chercher ces vieilles mémoires pour votre libération. Mais ce que le rêve peut faire aussi, c'est qu'il peut vous instruire sur ce qui est déjà là, que vous croyez qui n'est pas là, que vous appelez le futur, mais qui est déjà créé dans l'invisible. Alors, il se peut que le rêve vienne vous le montrer d'avance pour que vous puissiez vous préparer et vous éveiller à une conscience nouvelle dans la compréhension d'un événement, par exemple, ou dans une relation à vivre avec quelqu'un, ou, nous dirons, dans la réception de codes nouveaux. Ces codes, ils existent depuis des milliards et des milliards d'éons, mais nous vous dirons, vous ne les avez pas reçus encore. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la banque de l'univers. Alors, vos rêves peuvent vous permettre d'aller chercher des connaissances dans la banque de l'univers. Bénissez vos rêves.
Alors, par cette question, je vous que je suis demeuré dans mon enfance. Pourtant, je sais bien, à mon âge, que l'on nous a saboté encore la vérité afin de nous emmener dans une autre voie. Nous maintenir également dans l'ignorance et sous l'emprise. Alors, la question, c'est, en regard avec ce fameux serpent, cette pomme, cet Adam, cet arbre et cette Ève, dont fait mention la Genèse, pourriez-vous démystifier ce racontage incompréhensible de ces écrits et également qui est fait mention? Alors, je vous remercie grandement.
D'abord, nous vous dirons que ce ne sont pas des racontages. Ils ont peut-être été interprétés symboliquement comme des rêves sont des symboliques. Alors, le serpent, c'est un symbole. Le féminin, c'est un symbole. Le masculin, c'est un symbole. Adam, c'est une vibration et un symbole. C'est le symbole d'une énergie. Lorsqu'on vous a parlé de ceci, on vous en a parlé en vous racontant une histoire, comme on raconte le petit chaperon rouge. Nous nous excusons. André, vous voulez voir, il y a du travail à faire. Alors, nous vous dirons, comme lorsque vous racontez une histoire à un enfant, c'est pour lui faire passer une valeur ou pour lui donner un enseignement. Alors, lorsqu'on vous a raconté la Genèse, par exemple, dans laquelle on vous parle de la création et qu'on vous parle de ce jardin d'Éden et de l'Adam, nous vous dirons, l'Adam dont il était question, c'était une énergie purement masculine. Et cette énergie purement masculine était douée de grands pouvoirs. Mais quelque part, comme elle était sur le plan que nous appelons le plan de la dualité, elle est entrée, cette forme Adam, qui est chacun d'entre vous, elle est entrée dans une forme d'énergie de dualité ou énergie de division. Ce que fait la dualité et la division, c'est qu'il propose la projection. Alors, ce qu'a fait Adam, qui s'est cru séparé, il a projeté à l'extérieur de lui celle qui est la femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire le corps et la forme de la femme d'aujourd'hui. Cependant, c'est toujours la même énergie de ce masculin. Ça, c'est la dent telle qu'on vous l'a racontée. Vous avez raison de dire quelque part que vous avez été exploité parce qu'on a dit que la femme n'était pas bonne et que c'est elle qui avait tenté et qu'il y avait le méchant serpent et tout ceci, parce qu'on n'avait pas compris toute la partie subtile de cette énergie. Mais vous, si vous arrivez à bien saisir que cet Adam dont il est question, c'est une partie de vous, une partie de vous qui projette une autre partie de vous à l'extérieur de vous pour vous montrer le monde de la division et de la dualité dans laquelle vous êtes. et que le serpent, celui qui est le tentateur, c'est celui tout simplement qui vient vous faire manger de façon prématurée une conscience qui n'est pas encore mûre, une énergie qui n'est pas encore mûre, un fruit qui n'est pas encore mûr. Et c'est pourquoi cet arbre était appelé l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la division. Et alors, c'est comme si à ce moment-là, dans l'énergie, la race humaine, vous ne devez pas voir ceci comme étant des personnes, mais comme une race, la race humaine est entrée dans cette énergie de division, elle a projeté à l'extérieur d'elle-même, puis elle a voulu manger de façon prématurée une conscience pour laquelle elle n'était pas mûre, pour laquelle elle n'était pas prête. Alors votre question est pleine de logique, mais enlevez la colère, car derrière, nous dirons, derrière ce mur de la religion qui vous a enseigné ceci avec sévérité, derrière cela, il y a une vibration qui est parfaite, et nous le répétons à nouveau, tout est parfait, même ce qui a été difficile et qui vous a maintenu dans les énergies émotionnelles de colère. Nous devrons, après cette question, quitter la forme.
Alors, je vous remercie d'avoir ouvert ma conscience à cette belle énergie qu'est celle du chariot blanc et de la partager dans la joie. Alors, ma question, c'est depuis environ 10 jours, j'ai des douleurs subites et également par intervalle sous forme d'élancement sous les deux pieds dans la partie centrale. Je me suis pas certaine de bien saisir ce qui se passe. Je suis consciente qu'il se passe quelque chose d'important. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? À cela, a-t-il un lien avec une sensibilité à la partie supérieure, voilà, du sein gauche? Et peut-être greffé à cette question, est-ce que les douleurs physiques ont un lien direct avec l'ouverture de la conscience?
Certainement. Alors nous vous dirons de ne pas vous inquiéter. Pour aucune considération, ne vous inquiétez pas. Sachez, nous avons dit tout à l'heure que le corps physique des êtres de la race humaine était un gabarit trop étroit pour être capable de recevoir toutes les vibrations de conscience. Alors, bien sûr, le gabarit physique des pieds, la tête, les reins, le cœur, les seins, nommer toutes les parties de votre corps vont subir le contre-coup de cette mutation. Alors, accueillez ceci sans vous poser de questions. C'est votre mental qui veut savoir et c'est votre ego qui voudrait bien se nourrir. Alors, nous vous dirons, laissez cette douleur passer, accueillez-la, sachez qu'elle est transmutation et ne laissez pas l'ego et ne laissez pas non plus le moi, le petit moi, s'emparer de ceci pour dire, tiens, je dois être un être évolué et ceci doit être un grand signe. Tout est un grand signe et les plus petits signes sont souvent les plus grands. Alors, nous vous disons, nous serons avec vous et avec vos pieds. Nous aimerons vos pieds comme vous les aimerez et les accueillerez. Et vous verrez que ces vibrations feront leur travail et seront distribuées dans l'amour sur le plan terrestre. Alors, avant de vous quitter, cher auditoire, nous voulons vous dire toute notre reconnaissance de vous ouvrir à la conscience, d'être plus ouvert à votre intuition, de vous permettre de vous libérer des codes anciens et d'accepter l'éveil. L'éveil à vous-même, l'éveil à l'amour du « je suis » dans lequel vous baignez. Et lorsque Paul de Tarse disait « En lui nous vivons, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes », il voulait dire « En lui, nous sommes déjà la conscience de la totalité de tout ce qui est ». Amen.
Nous remercions le chariot blanc pour tous ses enseignements. Nous remercions cette énergie qui parfois peut paraître comme quoi c'est strictement et seulement notre inconscient. Et pourtant, c'est bel et bien dans la conscience de la matière que nous la recevons.
Merci.
Alors, merci d'être là. Merci de nous montrer qui nous sommes, comment nous sommes. Je parle dans la vibration, dans l'énergie. Et merci également de nous attirer dans cette conscience qui ne veut nul autre que réunir toute pensée qui se croit divisée.
Amen.
Alors, pendant que nous allons intégrer tout ceci, j'inviterai les gens à affirmer le « Je suis » dans le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière. Je suis le son, le souffle et la lumière.